Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 27 septembre 2022 pour cette première bénédiction matinale de la semaine. Nous continuons bien entendu notre thématique en entreprise. Il y a déjà 8 leçons, puisqu'aujourd'hui c'est la leçon numéro 8. Sur le chapitre 11 aux Hébreux avec la thématique « C'est par la foi ». Donc, vous rappelez qu'actuellement, avec les pasteurs, sans qu'on s'en soit, nous nous en ayons parlé, on a senti de la part du Seigneur, de façon respective, d'aborder la question de la foi. Donc, j'ai repris une ancienne série d'enseignements que j'avais apportée en 2018, au début 2018, sur la foi. Je révise un peu la chose, je l'adapte au contexte d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on étudie donc la leçon numéro 8, qui est en fait toujours sur Abraham. C'est notre troisième leçon de suite sur Abraham. Cette fois-ci même, on pourrait dire sur Sarah et Abraham, puisqu'on va parler de l'épreuve de la foi. Donc, il y a deux sections aujourd'hui. Probablement qu'on va se limiter à la première. La deuxième, je l'enregistrerai et je la diffuserai demain matin. Je devrais être à l'extérieur demain matin, donc incapable d'être là en direct, mais je vais voir tout à l'heure pour enregistrer donc une vidéo et puis demain à 8h30 la diffuser en guise de bénédiction matinale, mais ça sera tout simplement la suite de la leçon du jour. Donc pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible avant que nous ne débutions la lecture, puisqu'on va prier, ouvrez tout de même dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux chapitre 11, et vous pouvez noter les versets 11 à 16. Hébreux 11, de 11 à 16. Alors prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette grâce de partager ta parole. C'est vraiment une bénédiction d'être tous encore une fois réunis, d'avoir accès à ces enseignements quotidiens pour l'édification de ton peuple, l'édification, Seigneur, de chacune de nos vies, afin que nous vivions, que nous soyons, que nous marchions, que nous fonctionnions comme tu désires qu'on le fasse. Alors, étends ta main, touche notre entendement, touche notre compréhension, et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Alors, Amen. Voilà. Alors, on va lire dans Hébreux au chapitre 11, les versets 11 à 16. Je lis pour vous et la parole de Dieu va comme suit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus, salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils recherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je relis le texte rapidement pour vous. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors comme je l'ai dit, c'est une leçon qu'on va entrecouper en deux. Je vais enregistrer tout à l'heure la deuxième partie qui sera diffusée demain matin. Comme je serai absent, vous pourrez toujours avoir une bénédiction matinale avec donc l'enregistrement de la deuxième partie. Aujourd'hui, on va essentiellement traiter de 6 points qu'on va intituler « Les ennemis de la foi ». La Bible nous dit qu'ici, Sarah elle-même, l'épouse d'Abraham, qui est originaire de la même contrée qu'Abraham, qui a eu le voyage aussi à travers Ur jusqu'à Charan, Charan jusqu'à Canaan, un voyage de foi, voyage d'obéissance, a elle aussi été confrontée dans sa foi. On s'entend que si Abraham n'avait pas de postérité, c'est parce que Sarah n'en avait pas plus. Si Abraham était en attente d'un héritier et de ce que la promesse d'une postérité s'accomplisse, c'est que Sarah elle-même attendait aussi que cette promesse s'accomplisse. Et ce qui est instructif, dirons-nous, pédagogique ou didactique pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que notre foi n'est pas à l'abri de l'épreuve, n'est pas à l'abri d'un temps difficile. Voilà pourquoi, et le pasteur Sergio en a bien parlé à travers cette dernière semaine, le pasteur André, à travers ses 2 dernières prédications le dimanche, en a aussi traité abondamment l'état de notre foi. La foi n'est pas une chose stationnaire, n'est pas une chose immuable. L'état de la foi fluctue. Parfois, il est en bonne portée. Parfois, notre foi est bien portante. Et par moments, si nous ne prêtons pas attention, si nous ne faisons pas attention, et si nous ne voyons pas les pièges qui peuvent se tendre devant nous, notre foi peut passer par des moments difficiles. Et c'est là où ce matin, l'enseignement devient important. On va essayer d'illustrer, de mettre un certain éclairage sur des ennemis que toute foi rencontre, sur des ennemis que peu importe qui tu es, peu importe qui nous sommes, peu importe notre degré d'avancement dans la marche chrétienne, notre compréhension de l'Écriture, notre disposition à plaire à Dieu, peu importe notre état, notre foi va être confrontée par ces 6 ennemis. Alors on va y aller graduellement dans la vie d'Abraham en prenant à l'occasion ce passage comme exemple, en d'autres occasions, en prenant d'autres passages dans Genèse, notamment pour parler de l'histoire d'Abraham. Alors, premier ennemi, céder à la peur de l'ennemi. Je répète, céder à la peur de l'ennemi ou céder face à la peur que peut procurer l'ennemi. Et ça, on le voit de façon très claire à 2 reprises dans l'histoire d'Abraham. Souvent, on a cette image d'Abraham qui est pratiquement un homme parfait. Et on essaie de chercher où sont ses failles. On est convaincu, puisqu'Abraham est un homme de la même nature que nous, qu'il a lui-même des failles. Mais on oublie 2 passages, 2 circonstances particulières dans sa vie où Abraham a littéralement manqué de foi. Et ses répercussions, ou la répercussion de ce manque de foi, aurait pu être horrible pour la promesse qui était à venir et pour son entourage, particulièrement pour sa femme Sarah. Abraham, à 2 occasions, va nier son mariage. À 2 occasions, il va se présenter dans une nouvelle contrée, d'abord en Égypte, puis auprès du roi Abimélec dans Canaan, à deux reprises, il va se présenter et il va décider de ne pas parler ou de ne pas présenter Sarah comme étant son épouse, mais de la présenter comme sa sœur. Et les deux fois, il va mettre Sarah dans une situation particulièrement indélicate, dans une situation particulièrement dangereuse. La première fois, ça se passe donc dans Genèse, au chapitre 12, du verset 10 à 20. Vous pourrez le relire tout à l'heure. Genèse 12, du verset 10 à 20. La deuxième occasion, ça se présente dans Genèse, au chapitre 20, et particulièrement dans le verset 11. Donc, Genèse 12, puis Genèse 20. Le premier, c'est au début de son périple. Abraham vient de quitter Charan, il se dirige vers la terre promise, il y a une famine et il fait donc une escale en Égypte. Les gens le voient venir et puis trouvent sa femme particulièrement belle. Sarah semblait être une femme de grande beauté. Abraham en était conscient. Donc, il va aller voir Sarah et lui dire, regarde, on rentre aujourd'hui en Égypte. Assurément, s'ils savent que tu es ma femme, ils vont me tuer pour te prendre. Alors, faisons un pacte. Lorsqu'on rentrera, ne dis pas que tu es ma femme, je dirai que tu es ma sœur. Et ils me sauveront, ils me garderont. Où ils protégeront ma vie. C'est ce qui se passe, effectivement. Abraham, Sarah, tout ce qu'ils ont rentrent en Égypte, les gens remarquent la beauté de Sarah, vont en parler au Pharaon, et le Pharaon dit à tout prix, je la veux pour femme. Et ils s'approchent d'Abraham, se rendent compte que c'est sa sœur, et vont donc prendre Sarah et l'amener dans la maison du roi. La Bible nous dit que des plaies vont tomber sur Pharaon et sa famille parce qu'il a pris Sarah pour femme. Lorsqu'il voit ce qui se passe en conséquence, il retourne vers Abraham et dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit que c'est ma femme? Que c'est ta femme, que c'est ta sœur ?» alors que c'est ta femme, et ne vois-tu pas dans quel danger tu m'as placé? Abraham est obligé d'avouer sa faute, et on libère Sarah, et on les fait partir du pays. Plus tard, donc à la fin du périple, un an en fait avant la naissance d'Isaac, donc environ à 98 ans. Abraham a toujours peur qu'on kidnappe Sarah. Dans Genèse 20, on nous dit que le roi Abimélec va voir Sarah, la trouve belle et l'amène. Parce que c'est la sœur d'Abraham. Et ce faisant, on se rend compte qu'encore une fois, Abraham manque de foi. Manque de foi dans la promesse de Dieu, manque de foi dans l'assurance que Dieu a dit qu'à travers lui et à travers Sarah s'accomplirait la promesse d'une descendance. Alors très souvent, un des ennemis de la foi, c'est la peur que nous avons de nos adversaires, la peur de ce que les gens vont nous faire, ce que les gens vont comploter contre nous. Il y a des gens qui vivent dans une peur constante de ce que le monde va leur faire. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit dans ce passage d'Hébreux au chapitre 11, vers la fin, et on aura l'occasion dans quelques semaines de parler de ces gens, des gens qui ont subi l'outrance, qui ont subi le martyre en raison de leur foi, mais qui ont refusé d'abdiquer leur foi, refusé de renier leur foi en raison de la promesse qui était faite ou qui accompagnait cette foi. Eux regardaient l'avenue céleste, eux regardaient la vie éternelle comme une riche bénédiction qui était beaucoup plus lourde dans la balance que le martyre ici-bas sur terre. Très souvent, parce qu'on a peur, parce qu'on est terrorisé par nos ennemis, eh bien, on cède au niveau de la foi. Abraham va dire, prenez Sarah, mais gardez-moi en vie. Prenez Sarah, mais laissez-moi en vie. C'est ma sœur. Et il fait tout ça parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver. Et cette peur-là, elle est due au fait qu'Abraham ne garde pas ses yeux sur celui qui l'a appelé, sur celui qui campe avec lui. Voilà pourquoi dans les Écritures, on va nous rappeler que celui qui est avec nous est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Si Abraham s'était souvenu, si Abraham avait rappelé à son âme combien grand est l'Éternel, combien grand est Dieu, il n'aurait ni craint le Pharaon ou le roi d'Égypte, ni craint Abimélec, et il serait resté dans l'intégrité. Ce faisant, parce qu'il a cédé, il a mis Sarah en danger et il a mis la promesse que Dieu leur avait faite en danger aussi. Alors ne cédons pas à la peur de nos ennemis. Le deuxième point du jour, le deuxième ennemi, c'est de céder à la pression humaine. Donc premièrement, céder à la peur de l'ennemi. Deuxièmement, céder à la pression humaine. Sarah, la Bible nous dit dans Genèse 16, du verset 4 à 16, vous pourrez le voir, que Sarah va être la risée de sa servante égyptienne prénommée Agar. Et lorsque Agar, qui a été donnée à Abraham, afin qu'elle enfante un enfant à la place de Sarah, de cette relation va naître Ismaël, on s'en rappelle tous. Donc Agar, suite à la naissance de son fils, va commencer à railler Sarah, va commencer à rire de Sarah. La Bible nous montre un deuxième exemple dans le même sens. Plus tard, Rachel, femme de Jacob, va pleurer et va en vouloir parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle va regarder Léa qui enfante et elle qui ne peut porter d'enfant et elle va préférer demander même la mort. Dans les deux cas, la pression qui est exercée sur Sarah à travers Agar, la pression qui est exercée sur Sarah à travers la famille ou la communauté qui voit la matriarche, l'épouse d'Abraham ne pas enfanter, met une pression sur Sarah. Sarah cède et met Agar entre les mains, entre les bras d'Abraham. Rachel cède à la pression de ne pas avoir d'enfant, cède à la pression de ne pas avoir donné une postérité à Jacob et va demander de mourir. Dans les deux cas, l'ennemi de la foi ici s'appelle la pression humaine. On le voit très régulièrement dans plusieurs situations. Dans la situation de la jeune fille, ou la jeune femme plutôt, qui n'a pas encore trouvé époux, ou dans la situation du jeune homme, voire de l'homme mature qui n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, épouse. On voit une telle chose parfois dans cette pression que certains vont ressentir du fait qu'ils n'ont pas l'éducation qu'un autre pourrait avoir, qu'ils n'ont pas le standing social qu'un autre pourrait avoir. Et plusieurs vont capituler au niveau de la foi, vont accepter des de céder l'intégrité de la promesse vers une contrepartie, vers quelque chose de palliatif, tout simplement pour ne plus subir cette pression. Rachel, au pire des cas, va demander la mort. Sarah, dans sa situation, elle va proposer une substitut à travers sa servante Agar. Mais Dieu n'a ni substitut, ni abandon de ses promesses. La Bible nous dit que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Je prends une gorgée. Donc l'appel d'Abraham, de Sarah, quant à porter en leur sein une postérité, ne changeait pas qu'ils aient 20 ans lorsqu'ils se sont connus, qu'ils aient 90 ans, qu'ils aient même 199 ans à la naissance et à l'accomplissement de la promesse. La promesse de Dieu n'a pas changé. Mais la pression que parfois on ressent avec l'attente et avec le regard des gens fait que parfois, effectivement, on va mettre de côté la promesse en essayant de donner un coup de pouce à Dieu, en substituant la promesse pour quelque chose de palliatif. Le troisième ennemi, on le voit dans Hébreux au chapitre 11, les versets 13 à 16, je pourrais le relire, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Hébreux 11, 13 va nous parler du danger de céder à l'appât de la gratification terrestre. Céder à l'appât de la gratification céleste, ou terrestre plutôt. Ici, dans Hébreux 11, du verset 13 à 16, on nous dit que ces hommes n'ont pas obtenu les choses promises dans un premier temps, mais qu'ils ont vu plus loin une cité céleste qui était merveilleuse, et qu'ils n'étaient pas de ceux qui cédaient en allant chercher simplement la gratification ici-bas sur terre. Ils ne recherchaient pas une patrie d'ici-bas, mais ils recherchaient une patrie d'en haut. Parfois, la promesse de Dieu, parfois l'appel de Dieu ne répond pas à nos attentes terrestres et humaines et charnelles. Je dis parfois que Dieu t'appelle à Tombouctou où il veut faire en sorte que tu rencontres une seule personne. On va même prendre un autre endroit. Prenons un petit village nordique dans le fin fond du nord québécois, où il y a une très petite communauté et Dieu t'appelle à aller faire un certain parcours en motoneige pour te rendre jusqu'à une cabane de chasse où tu ne vas rencontrer qu'un seul individu. Dieu t'appelle à aller là-bas. Mais juste avant que tu ne démarres ton périple, quelqu'un t'appelle de Chine en disant « Mon ami, on aimerait te faire passer à la télévision nationale pour que tu puisses parler aux 2 milliards d'habitants de notre pays. » Et là, il y a le dilemme, à savoir, est-ce que j'obéis à Dieu en me rendant dans un trou perdu dans le nord du Québec pour rencontrer un seul type caché dans sa cabane entouré de glace et de neige, ou je prends le jet privé qu'on met à ma disposition pour m'amener en Chine afin que je parle aux 2 milliards de Chinois qui vont m'écouter. L'un dira que de partir à Dieu, partir dans le nord du Québec, c'est de l'obéissance, et l'autre dira que d'aller en Chine, c'est une bonne gestion parce que tu peux atteindre davantage de gens. Il y a des gens qui abandonnent la vision divine parce que celle-ci est peut-être moins reluisante, moins gratifiante, moins glorieuse aux yeux humains que certaines atteintes qu'on peut parvenir à avoir ici-bas sur Terre. Il y a des gens qui vont honorer et rechercher la cité céleste, et d'autres qui vont privilégier, qui vont valoriser davantage la gloire éphémère d'ici-bas sur Terre. On a parlé d'un tel personnage lorsqu'on a étudié dans Timothée et que Paul va parler de Démas qui l'a abandonné. Démas qui a travaillé avec lui pendant un certain temps, et Paul va dire de lui que l'amour de ce siècle présent a gagné et qu'il a abandonné Paul alors que Paul est emprisonné à Rome pour repartir dans son ancienne vie, pour repartir à son point de départ. Alors il y a des gens effectivement que cette terre intéresse davantage que la cité céleste. Il y a des gens qui, pour eux, l'accomplissement ici-bas sur terre est plus important que la destinée éternelle. On voit cela dans le volte-face de la femme de Lot à Sodome et Gomorre. Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorre, et on sait la discussion qu'il y a entre Abraham et l'ange de l'Éternel quant à épargner la ville, puisque son cousin Lot y habite avec les siens. Dieu finalement dit à Abraham qu'il va épargner Lot. Donc il arrive chez Lot, les anges arrivent chez Lot, font sortir Lot, ses filles, ses beaux-fils et son épouse. Et il démarre, en fait non, c'est juste ses filles, son épouse et Lot. Il démarre leur trajet et le châtiment de Dieu tombe sur Sodome et Gomorre. Alors qu'il s'apprête à monter ou à gravir la montagne, la femme de Lot se retourne, envieuse, nostalgique de ce qu'elle venait de quitter, et elle est transformée en statue de sel, alors que Dieu leur avait dit, ne vous retournez pas. Parfois, il y a des gens, effectivement, qui retournent dans leur passé, qui retournent dans leur vie passée, celle qu'ils connaissaient avant de rencontrer Christ, parce que celle-ci leur semble plus glorieuse que celle qu'ils mènent aujourd'hui dans les voies de Dieu. Alors le troisième ennemi de la foi qu'on voit aujourd'hui, l'appât de la gratification terrestre. L'honneur recherché ici-bas sur terre comparativement à celui d'en haut. La gratification, la bénédiction instantanée que certains recherchent et qui est plus attrayante pour eux que celle que Dieu offre et donne dans son temps parfait, ici-bas ou dans l'éternité. Quatrième ennemi de la foi, l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Dans Genèse, au chapitre 17, du verset 15 à 18, on en voit un exemple. Dans Genèse 18, de 9 à 13, on en voit un deuxième exemple. Genèse 17, 15 à 18 nous dit, « Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Deuxième passage, Genèse 18, du verset 9 à 13. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Et il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah était vieux, avancée en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux !» L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille ?» Dans les deux cas, Abraham, comme Sarah, les deux vont dire, « Le temps est passé. J'y croyais, mais je n'y crois plus. » Quand Abraham a quitté Charan pour se rendre jusqu'à dans la terre promise, Abraham avait l'assurance qu'il aurait une postérité. Puis, il n'y a plus cru. Et dans le cas d'Abraham, il a même dit à l'Éternel, ben regarde, effectivement, j'aurais pas d'enfant, alors bénis Ismaël. Ismaël que j'ai eu à travers Agar, la servante de Sarah. Et Sarah va entendre la même chose quelque temps plus tard et va dire, non, mais comment je pourrais avoir des désirs, moi qui suis âgé? Comment mon mari qui est vieux pourrait-il me donner même un enfant aujourd'hui? Ni Abraham, ni Sarah n'y croit. Et parfois, effectivement, un des ennemis de la foi, c'est de céder sous l'épreuve du temps. Je pense même qu'une bonne façon de résumer l'épreuve de la foi, ou un des aspects de l'épreuve de la foi dans lesquels, ou auxquels on est tous confrontés à un moment ou à un autre, c'est effectivement la question du temps. Est-ce que je vais céder sous l'épreuve du temps ou non? Si elle tarde, attends-la, disait le prophète concernant la promesse. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle est en cours. Elle viendra, elle arrivera. Dans Genèse 16, du verset 1 à 3, puis dans Genèse 17, au verset 18, on voit des exemples d'un autre ennemi de la foi. Cette fois-ci, c'est céder à des moyens palliatifs. Sarah qui va donner sa servante Agar à Abraham afin d'avoir un enfant qui s'appelle Ismaël. Abraham qui propose à Ismaël ou qui propose lui-même Ismaël comme fils de la promesse. Et on l'a dit tout à l'heure, lorsque Dieu va dire à Abraham qui change le nom de sa femme, que son propre nom à lui va aussi changer et qu'il va avoir un enfant à travers Sarah, Abraham qui dit à Dieu après avoir ri, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face !» Alors on offre à Dieu un système palliatif. « Seigneur, tu voulais que j'aille dans le nord du Québec rencontrer quelqu'un dans une cabane en bois, tout seul, alors qu'il n'y a personne et qu'il n'a aucun impact sur la société en général. Seigneur, je t'offre plutôt la Chine, où je pourrais contacter jusqu'à 2 milliards de personnes. » On offre parfois à Dieu des échanges, des palliatifs ou des choses palliatives. Et on ne veut pas rester jusqu'à l'atteinte, jusqu'à l'obtention de la promesse. Alors un des dangers, comme Abraham, comme Sarah l'ont connu et l'ont vécu, c'est de trouver à Dieu des moyens palliatifs. Ne plus croire à l'authenticité et ne plus croire rigoureusement à cette promesse. Y trouver des failles, essayer de la modeler pour l'adapter à notre situation. Abraham qui va peut-être dire, « Ah, mais OK, bon, la promesse va s'accomplir, mais pas par un fils qui descendra de Sarah, mais par un fils qui descendra de la servante de Sarah, qui est la propriété de Sarah, donc qui, par ricochet, vient de Sarah. » Et non, ce n'était pas comme ça que la promesse de Dieu devait s'accomplir. Et enfin, et dernier obstacle, ou dernier ennemi de la foi, on le trouve dans Genèse 17, au verset 17 que je relis pour vous. Abraham tomba sur sa face, il rit en son cœur. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et on le retrouve dans Genèse 18, le verset 11 qui nous dit « Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Ce dernier ennemi, c'est de céder au contexte environnant. Abraham sait son couple trop âgé. Sarah n'a plus de désir et Abraham est rendu trop vieux. Et parfois, on regarde le contexte autour de nous et on dit, voilà maintenant, c'est impossible. Dieu avait promis, mais ça a tellement tardé que ce n'est plus possible. La promesse ne s'accomplira plus. Voilà 5 ou 6 ennemis de la foi. Dans ce dernier, on se dit c'était possible autrefois, quand on était jeune, ce ne l'est plus aujourd'hui. C'était possible lorsque j'étais dans la force de l'âge, ce ne l'est plus aujourd'hui. C'était possible quand j'avais toute l'énergie nécessaire, ce n'est plus possible aujourd'hui. C'était possible quand j'avais tous les moyens de le faire hier, ce n'est plus possible aujourd'hui. Céder face au contexte environnant qui peut changer. La promesse de Dieu, elle, n'a pas changé. Même si Abraham était rendu vieux, même si Sarah ne pouvait plus enfanter de par son âge avancé, la promesse de Dieu ne changeait pas. Le contexte peut changer, la promesse ne change pas. Le contexte peut évoluer, la promesse ne change pas. Alors ce matin, les 6 ennemis de la foi, les 6 ennemis de ta foi, 1, c'est la peur de l'ennemi, la menace qu'il peut surgir devant toi. Et pour éviter la confrontation avec l'ennemi, tu peux décider, malheureusement, de mettre ta foi de côté. Dans un autre cas, c'est la pression humaine. Le fait d'être la risée en maintenant ta foi. Combien de fois Noé a-t-il dû être la risée de la population environnante? Noé, tu es en train de bâtir une arche en plein cœur de la terre ferme, loin de la mer, loin d'un cours d'eau, et tu dis qu'il va pleuvoir. Il n'y a jamais eu d'eau qui est tombée du ciel. Et on a dû rire de lui. Pendant les décennies comprises, la construction de l'arche. Et parfois, à cause de la pression autour de nous, on peut capituler au niveau de la foi. Parfois, c'est qu'on veut une gratification sur l'instant, maintenant, pas plus tard, pas dans l'éternité. Je veux ma satisfaction aujourd'hui, ici. Et parfois, on sous-pèse la gratification que je pourrais avoir sur terre et celle que Dieu me promet, et la promesse de Dieu pèse moins lourd dans notre balance. Et on capitule face à la foi parce qu'on veut une gratification terrestre. Parfois, c'est le temps. Ça tarde, ça tarde, ça tarde. Et parce que ça tarde, j'abandonne la foi. Parfois, c'est parce que ça tarde, alors je cherche des moyens palliatifs. Je cherche à aider Dieu en lui offrant d'autres moyens de faire la chose. Imaginez que tous les problèmes d'Israël, jusqu'encore aujourd'hui, c'est parce que Sarah a proposé à Abraham un moyen palliatif à travers Agar. Et en l'occurrence, Ismaël. Tous les problèmes qu'Israël connaît aujourd'hui avec ses ennemis proches sont essentiellement dus à Sarah qui a voulu donner un moyen palliatif. Et enfin, parfois on regarde notre situation et on dit « Je ne suis plus capable. Je ne suis pas capable. C'était bon hier. » C'était bon dans tel contexte, mais le contexte ne s'y prête pas aujourd'hui. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Continue à avancer en toute occasion, favorable ou non. Continue à faire avancer l'Évangile, en toute occasion, favorable ou non, pour continuer à avancer dans des circonstances défavorables, il nous faut la foi. Et parfois, le contexte vient briser notre élan, voire le contexte vient nous faire céder, abandonner, capituler. La foi peut être protégée. La foi peut être fortifiée. Et plus encore, la foi peut être restaurée. Et c'est ce que nous verrons demain. Alors, ce sera un enseignement qui sera déjà enregistré, que je diffuserai demain matin. Mais soyez là à 8h30 pour la diffusion. Prions. Merci Seigneur pour ce rappel. Et merci aussi Seigneur pour cette lumière que tu lances sur ces ennemis de notre foi. La peur de l'ennemi, la pression humaine, l'appât d'une gratification instantanée, terrestre. L'épreuve du temps. L'épreuve des moyens palliatifs ou le fait de céder à des moyens palliatifs. Le fait de céder face à un contexte environnant qui a changé. Seigneur, tu nous éclaires sur des secteurs de notre vie qui peuvent parfois effectivement nous amener à abandonner la foi. Mais nous voulons croire, Seigneur, que notre foi peut être protégée. En connaissant ces attaques, en connaissant ces stratagèmes de l'ennemi, en connaissant ces choses qui viennent nous attaquer ou qui viennent confronter notre foi, en réalisant quels sont ces points, nous pouvons résister. La foi peut être fortifiée. Un peu comme ce père qui te demandait « Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma foi. » Je prie, Seigneur, effectivement, que tu fortifies notre foi. Et je prie, Seigneur, que moi, dans mes actions, dans mes décisions, dans mes prises de position, dans mon ancrage dans ta parole, dans ma proximité avec ta personne, que je puisse ainsi, Seigneur, protéger et fortifier ma foi. Et si ma foi, Seigneur, elle avait été chambranlante, si ma foi, Seigneur, a capitulé, si ma foi, Seigneur, a été brisée, je te prie, Seigneur, de la restaurer, de restaurer mon âme, de restaurer ma foi. Non seulement, Seigneur, pour moi, je fais cette prière, mais aussi, Seigneur, pour mes amis qui nous écoutent aujourd'hui. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié, Seigneur, dans ton précieux et glorieux nom, le nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ce que nous avions pour ce matin. Demain, donc, on verra, toujours avec ce passage d'Hébreux 11, du verset 11 à 16, trois moyens de fortifier notre foi, de protéger notre foi, voire de restaurer notre foi. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à demain. Comme je vous ai dit, demain, je ne serai pas en direct, mais je vais diffuser dès 8h30. Je vais poster une vidéo dès 8h30 que vous pourrez regarder en guise de bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.